Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13, membre du comité d'animation des économistes atterrés qui a publié Le bien commun, le climat et le marché, réponse à Jean Tirole aux éditions Les liens qui libèrent. Philippe Manière, président de Vaisselis Communication, auteur du Pangolin et de l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous aux éditions de l'Observatoire. Et Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance qui consacre un tiers de son temps aux effets climatiques sur l'économie.
Et sur les marchés.
Et sur les marchés.
On l'en vit pas.
Non, Nicolas m'écrit, les milliards dépensés lors des crises étaient justifiés par la nature exceptionnelle de la situation, ce qui n'est pas le cas pour les retraites ou les dépenses courantes, m'écrit-il. Lionel me dit, le passage en force sur les retraites, les discours politiques ambiants vont alimenter la frustration dans les urnes, attention. Il y a aussi Doucet qui me dit, ce qui est inquiétant, ce sont les appels à la haine, à la révolte de la part de responsables. Et quand on entend effectivement Fabien Roussel qui appelle les PME à bloquer le pays, ou des élus qui appellent à la désobéissance civile, bon, sont-ils exactement dans leur rôle ?
Un ministre qui parle de bordélisation quand on fait des manifestations, je veux dire, bon, faut tout dire. Hein.
Baisser les pensions, augmenter les cotises, c'est pas anti-récessionniste, quoi.
Est-ce que c'est récessif ?
Récessif.
Je sais pas.
Récessionniste, ça n'existe pas. J'ai inventé un nouveau mot.
Je pense qu'il y a beaucoup de pensées magiques autour de cette réforme. Vous aviez parlé dans votre introduction de ce baromètre des seniors, etc.
Oui, l'index seniors, ouais. Les patrons redoutent qu'on leur impose quelque chose avec sanction.
Nous, on a regardé ça avec le Club Landois, qui est un think tank qui s'occupe de la transition démographique. On a fait un guide pour l'inclusion intergénérationnelle. En fait, ces indicateurs, c'est juste une façon de dire... Augmenter l'âge de départ à la retraite, c'est pas performatif. C'est pas parce que vous mettez 64 ans que les gens vont rester. Ah bah, on a un sujet d'emploi des seniors en France.
Il y a l'effet horizon quand même.
Oui, il y a l'effet horizon. C'est justement le même sujet que ce côté récessif ou pas de la réforme que le ministre, dont le ministre parle. C'est-à-dire qu'il y a derrière cette réforme beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et notamment sur l'emploi des seniors. Est-ce qu'il va falloir à un moment donné être un petit peu plus regardant, c'est-à-dire mesurer? Moi, je suis pour. Je comprends que les patrons soient pas d'accord, mais je pense qu'il faut mesurer pour bien comprendre. Est-ce qu'il faut faire, comme les Suédois, des bonus-malus? Est-ce qu'il faut faire des ajustements de pénibilité?
C'est un peu l'idée de François Asselin, de CPME, le bonus-malus. Il y a un peu de ça.
Hein. Donc, on a fait, en France, on a eu la taxe de la lande pendant quelques temps. On a déjà fait des choses comme ça.
Avec des résultats très négatifs qu'on sait.
Exactement. Hein. Moi, je pense que les bonus-malus, on peut les éviter. Mais en revanche, mesurer et comprendre, c'est très important.
Oui, mais contraindre?
Et peut-être, je ne sais pas contraindre, je ne sais pas. En revanche, on est prêt à contraindre sur les contrats courts, les contrats longs. Moi, je peux vous dire que par exemple, dans les indicateurs, moi je veux juste avoir les chiffres. Le taux de recrutement, le taux de formation professionnelle, le taux de formation professionnelle certifiante pour les seniors en entreprise. Combien de fois on parle d'eux pour des mobilités? Tout ça, c'est pas compliqué à prendre en compte pour des RH. Si on a ces chiffres-là, on va pouvoir
se rendre compte. Grandes entreprises.
Pour des RH de grandes entreprises.
C'est 30% de la population active.
Mais c'est important parce que c'est ces entreprises-là qui sont les premières à se défaire des seniors en ne pas leur trouver de réorientation dans des entreprises où il y a des postes. Donc moi, je dis juste, il faut calculer, regarder et puis après comprendre si on doit mettre des mesures incitatives supplémentaires.
Ouais. Non, mais dans une situation dans laquelle, le taux d'emploi des 60-64 ans, c'est 35%, oui. Et où on fait passer la retraite à 64 ans, c'est clair qu'il y a des choses qu'il faut faire, hein, je veux dire. Hein. Non, parce que effet horizon, je veux bien. Ah oui, c'est ça. Comme ça, tout d'un coup, on va avoir 65% de gens en plus dans l'emploi.
Il
faut pas rigoler.
Il y a un peu d'inertie, mais on sait.
Ça veut dire qu'on sacrifie pendant de très nombreuses années une grande partie des seniors en fin de carrière de travail, en les bousculant dans la précarité, dans des situations invraisemblables. Donc, je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, mais il y a plein de choses à faire. Et c'est ça qu'il aurait fallu penser en même temps qu'un éventuel allongement.
Enfin, en France, on n'est pas bon pour les politiques actuelles.
64 ans, c'est en 2030. Hein, oui, premiers,
c'est bientôt.
Oui, c'est bientôt. Pardon, mais il y a encore des gens qui pensent que 64 ans, c'est l'été prochain. Il faut le rappeler toujours.
Un petit mot sur l'effet récessif, quand même, parce qu'à court terme, je pense effectivement, comme Ludovic, c'est assez difficile et puis c'est un argument qu'on invoque volontiers. Bon, l'idée qu'on va protéger les Français contre la récession en faisant des choix, moi j'ai toujours été très sceptique. Hein. Je vois pas très bien ce qui se décide à Bercy sur le sujet de manière efficace. En revanche, je crois qu'il ne faut pas oublier de rappeler que d'un point de vue structurel, la prospérité d'une société dépend quand même de sa capacité à mobiliser, pardon, d'être marxiste en passant, les facteurs de production. La France est l'un des pays où le nombre d'heures ouvrées rapportées au nombre de résidents est, c'est même le pays,
c'est le
plus
oui.
faible, pas
c'est
le grand pays.
On est à 607 heures par an et par habitant.
C'est extrêmement
609.
Faible. Ça veut dire qu'on a une forme de limitation de notre capacité à nous enrichir. Comme en plus on a des gains de productivité assez faibles, comme en plus la natalité en tendance va plutôt du mauvais côté, tout ça c'est quand même pas des très bonnes nouvelles. Donc elles se traduisent par une forme de nécessité qui pour moi ressortit à l'évidence. Après on peut faire les réglages qu'on veut. Il est vrai que si on veut continuer à avoir de la croissance, de la prospérité, il n'est pas inutile de mobiliser plus le facteur travail. Alors si on baisse le temps de travail hebdomadaire, comment on l'a fait? Si, et c'est une bonne nouvelle, on accroît le nombre d'années passées en études, c'est-à-dire qu'on commence plus tard à travailler. Si par ailleurs on vit plus longtemps, c'est-à-dire qu'on coûte plus longtemps, plus cher à la société parce que les rémunérations, etc., il n'y a qu'une solution, c'est que les gens travaillent un peu plus. Et sincèrement, je me permets de rappeler que ce dont on parle, il y a des cas particuliers sur lesquels on peut éventuellement revenir ici aujourd'hui ou un autre jour, mais ce dont on parle à 95%, j'accepte les cas particuliers avec les femmes, c'est 11 années de naissance, les années mi-61 à fin 72, à qui on va demander un effort de 1 à 3 trimestres par rapport à ce qu'il serait passé sans réforme. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont nés avant, ils ne sont pas concernés. Ceux qui sont nés après, ils auraient été rattrapés par la réforme Touraine. Donc, vous avez extrêmement peu de gens qui vont être marginalement concernés. Moi, je le suis, donc c'est vrai que c'est pas marrant de se dire on va travailler un trimestre, deux trimestres, trois trimestres de plus. C'est pas non plus la fin du monde, sachant qu'on a gagné 12 ans de longévité depuis la libération, je crois même un peu plus. Il faut arrêter, remettons les choses en perspective. Oui, c'est un petit effort qui est demandé à un petit nombre de gens. Et il y a toutes sortes de dispositifs pour prendre en charge les cas particuliers dont la non-prise en charge serait choquante. Typiquement, les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils peuvent s'arrêter plus tôt et c'est bien normal. Il y a encore un renforcement de tout ça dans cette réforme. Moi, je suis fasciné de l'enlevée de boutique que provoque une réforme aussi petite, dont d'ailleurs les effets ne permettent pas de garantir qu'on a l'équilibre des retraites à long terme. Il faudra revenir dans 5 ou 6 ou 7 ans.
Oui, on remet le couvert.
Donc, regardons les choses telles qu'elles sont. C'est une petite réforme qui concerne peu de gens et pour pas grand-chose, sauf quelques petits cas qu'il faut certainement régler.
Mais vous voyez, je vous disais en introduction que vous pourrez mettre tous les arguments que vous voulez, ceux qui sont contre le restaurant.
Mais pour cette raison extrêmement simple, quand même, non, parce que je ne peux pas laisser, dire ça.
C'est pas faux ce que je vous ai dit.
Mais bien sûr que c'est faux. Je vais vous dire pourquoi c'est faux.
En quelques mots.
Je vais être très rapide.
Oui, parce que après,
on explique que comme on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, machin, etc. Et c'est en gros ce que vous nous avez dit de manière un peu technique et on va dire sophistiquée. Fort bien. Mais c'est justement ceux qui rentrent tard qui vont pas travailler plus. Parce que vous commencez à travailler à 23 ans et vous faites 43 ans, ça fait 66 ans, ils ont encore de la marge. Ceux qui vont payer, c'est justement ceux qui travaillent déjà le plus. Bon, voilà le fond de l'affaire, voilà pourquoi elle est fondamentalement injuste et voilà pourquoi les ministres pourront occuper tous les écrans qu'ils veulent. La réforme sera toujours aussi impopulaire parce qu'elle est injuste.
Bon, cet auditeur me dit Ludovic Ciborin est très bon et avec son calme, il faut l'envoyer en tête des manifestations.
Oui, écoute, il n'est pas mauvais.
Voilà,
pas,
voilà ça, bah, vous êtes calme. Donc,
je manifeste moins.
Il y a l'Egniman me dit, honnêtement, si on m'explique que tous les économistes valident que l'unique moyen c'est de prolonger l'âge de départ à la retraite, alors je ne crois plus rien à cette discipline. J'ai eu des économistes ici qui étaient d'un avis très différent.
Plein d'autres choses, tu peux augmenter les cotises.
Tu peux aussi augmenter les régimes, diminuer les pensions aussi.
Oui, c'est ça. Tu réduis les pensions.
Michael Zemmour est venu ici, il avait une liste de 5 points qui était une hausse de prélèvement obligatoire d'une manière directe ou indirecte.
Bien sûr. Non, il y a une grande partie de ses propositions à Zemmour que je respecte énormément, même si.
Il
y en a beaucoup des Zemmour.
Oui, non, mais vous aviez compris, mais
qu'un qui est fautif.
Quand on dit Zemmour sans le prénom,
il y a beaucoup de gens. Une partie de ses propositions, c'est de revenir sur la non-fiscalisation, par exemple. De l'épargne retraite, oui. etc., qui est une incitation cachée à la retraite par capitalisation.
Ça, c'est très mal.
Etc.
Il n'y a que les fonctionnaires qui en ont, c'est pour vous dire comme c'est mal.
Oui, non, mais écoutez, on peut toujours faire de l'humour.
Ben c'est vrai.
J'allais dire à la petite semaine. Le fond de la question, c'est que le corps le dit très bien. c'est pas un problème de dépenses, elles sont maîtrisées. C'est un problème de recettes. Et dans ces problèmes de recettes, ils sont multiples. Hein. Ils sont multiples. Hein. Je ne veux pas trop simplifier les choses, hein, bien sûr. Mais il y a le fait qu'on a défiscalisé toute une série d'activités. Les primes Macron de fin d'année, machin, etc., oui, qui permettent de ne pas augmenter les salaires,
ça, c'est vrai.
C'est de la défiscalisation.
Voilà. Bien sûr. C'est défiscalisé, oui.
J'arrête là, parce que là, ils sont d'accord.
Non, mais c'est vrai.
Donc, je ne sais pas si tu veux passer
ton prochain sujet. Je suis complètement d'accord.
Donc, commençons par voir quel serait l'équilibre ou les problèmes une fois qu'on a refiscalisé ce qui doit l'être.
Mais tout ça, c'est tout petit par rapport au temps de travail.
Si on commence à introduire la défiscalisation au-dessus de 2 SMIG, etc., on n'est plus dans les choses petites.
J'entends aussi beaucoup d'opposants à la réforme dire demandez aux gens s'ils sont prêts à payer 20 euros de cotisation en plus par mois pour partir 2 ans plus tôt.
Bien sûr.
Bon, on arrête le sujet. C'est on en a pas mal parlé.
On a lancé les troupes un peu.
C'est pas 20, c'est plutôt 35. 35.
Ça dépend quel salaire.
Il y a plusieurs évaluations.
C'est 14 euros au SMIC.
Mais la moyenne, c'est, je crois, 400 euros par an.
Non, ça c'est les.
Si. Ludovic Subran, où est passée la récession? Tout le monde redoutait la récession. Le FMI a relevé sa prévision de croissance à 2,9% pour 2023, de 0,2 points. Pas l'INSEE, le FMI. L'INSEE a sorti sa première estimation du quatrième trimestre à plus 0,1 au lieu des moins 0,2 attendus. La croissance 2022 de la France est à 2,6%. Elle a été attendue à 2,5%. Et l'acquis de croissance 2022 sur l'année 2023 est de 0,3 points. La récession a disparu.
Je sais pas si elle a disparu, mais moi je fais c'est le coq avec les deux pieds dans la mouise, c'est-à-dire que 0,3 points de croissance c'est pas baiser.
Bah oui, mais...
et surtout quand on regarde les sources, c'est comme le chancelier Scholz qui était à Davos et a dit il y aura pas de récession en Allemagne. En fait, quand on regarde pourquoi il y a pas de récession, c'est juste à cause des dépenses publiques qui accélèrent.
C'est ça.
Donc en fait, ils évitent la récession, c'est facile de faire de la gestion fiscale.
C'est même une spécialité française.
Il va pas très très bien dépenser, mais c'est une des spécialités. En France, on sait faire, mais maintenant même les Allemands s'y mettent.
Donc, c'est le budget qui nous sauve.
Ah bah oui, il n'y a qu'à regarder l'accélération des dépenses publiques.
Je vois aussi le moral des patrons qui sort de son niveau de contraction, je vois les intentions d'embauche,
ils savent qu'ils vont
les
avoir
créations d'emplois, des aides. Les projets d'investissement.
Non, c'est pas vrai ça. Alors, en fait,
qu'est-ce qui n'est pas vrai?
Qu'il n'y a pas de projet d'investissement en accélération, c'est d'ailleurs...
Pas accélération, mais ils sont restés à des niveaux...
La croissance des investissements en Europe, elle est déprimée, ça, il faut arrêter de dire... D'ailleurs, par rapport au niveau d'inflation, on se demande quel niveau d'inflation pourrait faire vraiment accélérer les investissements. Parce que là, il y a eu de l'abus de pricing power. Donc les prix ont été passés aux consommateurs. Mais en fait, moi, j'aimerais bien qu'avec ce 6% d'inflation, on aurait juste voir un petit peu plus d'investissement.
Normalement,
privé.
Les gens devraient investir.
Bah, bien sûr, parce qu'il y a du rendement positif.
On n'a pas eu l'investissement, c'est pas écroulé comme on aurait pu le redire.
Non, mais bien sûr, avec toutes les aides.
Mais est-ce qu'il faut se dire que finalement, la réalité, le terrain, a déjoué les conjoncturistes?
Non, je pense pas du tout.
Je pense la dépense publique.
Il y a la dépense publique qui joue ce rôle d'amortisseur. Alors c'est bien, c'est pas bien. J'ai pas de jugement là-dessus. Il y a deuxième chose. Je suis désolé, mais il y a encore énormément de surépargne Covid, malgré l'inflation,
oui, il ressort.
Malgré la dépense. Et donc là, les gens vont piocher dans leur surépargne Covid. On a fait un énorme transfert de richesse publique vers la richesse privée en 2020. C'est un choix qu'on a assumé. Il y a des gens qui ont encore de l'argent qu'ils n'ont pas dépensé sur des restos, sur des hôtels, sur des voyages, qu'ils le dépensent aujourd'hui. Donc il y a une résilience de la conso privée. Il y a encore beaucoup de cash sur les bilans des entreprises pour les mêmes raisons, parce qu'elles ont eu du chômage partiel, elles ont eu des aides, etc. Elles ont fait 80% d'augmentation des profits, alors qu'elles avaient moins 20% de leur chiffre d'affaires. C'est ça qu'on a. On a la fin de code comète des aides publiques. Il y a eu cette crise énergétique qui a compliqué la donne, puisqu'elle a fait grossir l'effet inflationniste de façon incroyable. Et donc, tout le monde s'est dit, c'est récession, parce que les banques centrales ont fait un choc de taux de 300 points de base. Donc ça, c'est quand même assez, assez net. Mais c'est vrai que maintenant, on est dans un purgatoire énergétique. Moi, je pense qu'on est cette idée que la crise énergétique derrière nous, je ne sais pas qui peut croire à ça. On n'a pas de solution. Je ne sais pas si c'est pour l'hiver
2024.
C'est des quarantaines énergétiques. Donc là, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle, par exemple, les marchés se redressent, c'est parce que c'est moins pire qu'attendu. Ah bah super, ça c'est une super raison pour avoir de l'optimisme sur les marchés. Non, on a des sujets, on ne sait pas comment faire l'hiver prochain, l'hiver d'après. On a les stocks de gaz qui baissent, on n'a pas de solution sur l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable en production. Et je suis désolé, on a dépensé sur les 6 derniers mois 250 milliards d'euros pour éviter que les gens aillent griller des saucisses sur les ronds-points. Parce qu'on a été traumatisés des gilets jaunes. C'est vraiment ça le sujet, il faut vraiment comprendre
ça. Je suis un peu malheureux, j'espérais plus d'enthousiasme.
Non. Moi, je pense qu'on est un peu dans l'œil du cyclone.
Donc en fait, c'est la queue de comète des
mesures. Et puis on a remis au pot quand même, de façon. Enfin, encore une fois, il y a qu'à voir le service de la dette en France.
Oui.
30 milliards.
Attention, Benjamin, pas le micro.
30 milliards en 2021, 54 milliards en 2022. On est au-dessus de 2 points de PIB de service de la dette. C'est dans le poste des dépenses, quand on regarde ce que fait Thomas Gégigian, la juste répartition, on est le 5e ou 6e poste de dépenses. C'est le service de la dette.
En 2021, il est à 40 euros sur 1000. 40 euros sur 1000.
C'était de la bonne dépense, non.
Ce que rappelle Ludovic est salutaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'on est tiré d'affaire parce que tout à coup, il y aurait ontologiquement une espèce de transformation de l'économie française, etc. C'est tout ça, que ce soit direct ou indirect, vous l'avez dit, avec le PGE, avec les aides aux ménages qui font qu'il y a de l'épargne. Tout ça, c'est l'argent public qui a été jeté en très grande quantité. Il fallait certainement faire quelque chose, on n'est pas en train de dire le contraire.
Ouais, bien sûr.
Mais enfin, il ne faut pas non plus bercer d'illusions sur le fait que la France serait tout à coup devenue une grande puissance particulièrement résiliente, capable de rebondir. Et donc, les problèmes structurels, mais j'y viens parce qu'il n'y a que ça qui compte, les problèmes structurels qu'il faut régler pour renouer avec une vraie croissance saine et qui ne soit pas seulement le robinet ouvert par Bercy, ces problèmes-là, il faut les régler, on les connaît, ce sont des problèmes, par exemple, de capacité, on revient à ce qu'on disait avant. Est-ce qu'on travaille suffisamment? Est-ce qu'on fixe suffisamment de capital? Est-ce qu'on est suffisamment attractif? Et quand vous comparez l'évolution relative de l'Europe, je parle sur le contrôle de Ludovic, sur 20 ans entre l'Asie et les États-Unis, c'est absolument catastrophique. Oui. On était sur le plan technologique parmi les dominants. Rappelez-vous comme on était fiers d'avoir notre téléphone mobile suédo-français, etc. Il y a 25 ans, 30 ans seulement, on est complètement à la ramasse. Toutes les nouvelles technologies sont ailleurs. Alors bien sûr, on est content, on a 3 licornes et demi, mais si vous voulez, la vérité derrière l'argent public qui masque tout ça et qui nous donne l'impression qu'on a miraculeusement, brillamment, grâce à notre talent, échappé à la récession, la vérité, c'est qu'il y a un effondrement relatif de la capacité du positionnement de l'Europe par rapport aux deux autres grands blocs. C'est ça qu'il faut traiter et c'est ça qui compte. C'est pas faire plus 0,1 ou moins 0,1, ce qui honnêtement n'a pas la moindre importance.
J'ai pas l'impression que l'épargne privée soit en train de s'ouvrir massivement vers l'économie.
Hein, c'est le sujet.
Oui, mais il n'y a pas eu des épargnes massives.
Non, parce que les gens réépargnent d'ailleurs, parce qu'ils ont eu peur de la moindre croissance. Ils ont peur pour leur pouvoir d'achat parce qu'ils voient que l'inflation reste et ils ont peur parce qu'on est en train de toucher à leur protection sociale, by the way.
Ouais.
C'est-à-dire que quand vous faites une réforme des retraites, il y a des effets récessifs, c'est que les gens épargnent.
On peut se dire aussi qu'ils ont peur.
La seule raison pour laquelle on évite un petit peu le... Et d'entact, on a une résilience, et donc il faut juste comprendre les sources de cette résilience pour savoir si c'est vraiment durable. Parce que moi, ma crainte, c'est que là, premier trimestre, on tient bon. Deuxième trimestre, la Chine rouvre, c'est pas plus mal, on va avoir plus d'inflation, plus de croissance. Et puis, on va rejouer à se faire peur en septembre, octobre, novembre, parce qu'on ne sait pas comment va passer l'hiver. Parce qu'on croit plus au Père Noël en octobre qu'en février, vous voyez. Et donc, ça, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'en octobre, novembre, on va dire, oula, en fait, on a plus consommé de gaz que ce qu'on pensait. Les Qataris ne font pas cadeau sur le prix du gaz. L'OPEP, elle a baissé ses trucs. Et donc, du coup, est-ce qu'on veut vraiment acheter? Ça va être de nouveau 20 milliards sur les dépenses publiques. C'est ça le sujet.
Et si l'hiver est légèrement moins doux que
exactement,
cette année,
exactement, tu vois. Donc, on est dans un truc, c'est quand même du poker, quoi. C'est pas comme ça qu'on doit gérer une économie. Donc non, on a un petit tunnel là, un petit purgatoire énergétique et il va falloir faire continuer
Benjamin,
ceux qui peuvent.
Par rapport à ce qu'on vient de dire au sujet de cette récession que tout le monde redoutait,
je vais vous mettre d'accord, je crois, d'une certaine manière, parce que ce que vous avez en tête, si je comprends bien, c'est que vous attribuez notre capacité de résistance à toute la politique de l'offre qui a pu être faite par le passé, au fond.
Et je pense qu'elle a fait plus de bien que de mal. Hein.
Ça marche pas si mal. parce qu'il y a ces effets aujourd'hui. Alors, moi, je vous rends des points. Au moins sur le fait que cette politique de l'offre, oui, elle a eu des effets. C'est incontestable. Je veux dire, multiples, mais justement pas sur la croissance. On va y revenir. C'est en ce sens que est-ce que ces effets, hors les choses les plus spectaculaires sur l'accroissement des dividendes, le classement des 40 premiers du CAC 40, etc., est-ce qu'elle a des effets macroéconomiques? Pour le moment, je vais vous dire honnêtement, personnellement, je crois qu'on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Et c'est en ce sens que maintenant, je vous rends des points en disant, oui, il a été fait des choses, hein. Il n'a pas été fait rien.
Le chômage a baissé.
Bien. Oui, mais c'est pareil. À quoi l'attribuer? Alors, pour pour le moment, vous voyez.
En stratégie, il ne peut pas vous cibler chaque
pour
euro.
Pour le moment, je suis très modéré.
Hein, mais il faut, d'ailleurs.
Alors, faire preuve d'humilité. À quoi l'attribuer? Je crois qu'il faut l'attribuer à ce qui a été dit. C'est-à-dire au fait que, effectivement, il y a eu de la dépense publique tous azimuts, il y a eu des transferts de richesses du public au privé, et y compris pour une partie des ménages, pas seulement aux entreprises, et que la résilience, elle est là.
Donc, c'est un peu de la demande aussi.
Seulement
de l'offre, hein, c'est même beaucoup de la demande.
Absolument. Donc, comment dire, quand on aura épongé ça, si on éponge, c'est-à-dire si on remet pas de l'eau dans le bassinet, si j'ose dire, on verra ce qui a été fait est capable de faire par rapport à la nouvelle conjoncture qui est marquée effectivement par des questions énergétiques absolument majeures. Je partage ce point de vue. Donc, comment dire, non, rien n'a pas été fait, mais on peut pas attribuer à ce qui a été fait la résilience d'aujourd'hui. On verra. Moi, je suis beaucoup plus sceptique que vous, mais bon, ça, c'est les faits qui nous départageront.
Il y a cet auditeur qui me dit qu'il faut absolument aller voir justement les travaux de justerépartition.fr de cet économiste dont vous rappelez le nom.
Oui. Il s'appelle Thomas Edigian.
Voilà, il se fait appeler traqueur de trésor avec un T majuscule, hein, les Bercy quoi. Et donc il a fait effectivement, il a ventilé 1000 euros de dépenses publiques, le fameux où va le pognon. Et c'est là où on voit que
Bercy le fait lui-même depuis longtemps.
Non, mais exprimer une révolution conceptuelle.
C'est certainement mieux fait qu'à Bercy, mais.
Non, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on voit que sur 1000 euros de dépenses publiques, vous en avez 530,
c'est le Guillaume Rosier de Bercy.
533, plus de la moitié, c'est retraite,
déjà,
santé,
c'est intelligible.
Assurance chômage, famille. Voilà. Famille, santé, assurance chômage, retraite.
Ce que je me retiens, c'est que sur 1000 euros, il y a 7 euros à la justice.
Ouais, il y a 7 euros à la justice.
Le temps justice.
Et la dette, c'est 40 euros.
Quelle catastrophe pour un pays avancé d'avoir cette situation dans laquelle on est pour notre justice.
Oui, c'est vrai.
Ça crée du sentiment d'inégalité de la sociale.
Non, mais alors, oui, je voulais vous faire réagir quand même à Jean-Luc Mélenchon aussi. Service public, effectivement. Mais alors, un mot avec vous. Le baromètre Kantar réalisé sur la perception de l'opinion ou des Français de leur service public, ça baisse. Ça s'effondre, Benjamin Cornard, dans l'éducation nationale. 97 euros sur 1000, c'est la troisième dépense pourtant, 97 euros sur 1000 euros. Eh bien, on sait toujours notre histoire de efficacité de la dépense publique.
Oui, on peut le voir comme ça.
Comment vous le voyez, vous, alors?
Ah ben, moi, je le vois que dans ce qui a constitué la fierté de la France et son attractivité, on avait une qualité de service public absolument exemplaire. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues de Berkeley, il y a 20 ans, qui disaient, vous, en France, vous avez une chose extraordinaire, c'est le lycée. Nous, on n'a pas ça. Bah oui. Vous voyez ? Bon. Donc, vous dites ne me surprend pas. Je veux dire, l'attente des Français vis-à-vis du service public
et de l'éducation
est de plus en plus déçue. Et de plus en plus déçus, qu'il s'agisse des transports. Je vais tout vous dire. Comme tout le monde, j'ai surtout utilisé le TGV, dans les dernières années. Mais il s'est trouvé que j'ai eu une activité qui m'a amené à aller dans des tas de coins reculés de la France. Ça marche plus, hein. Ça marche plus. C'est-à-dire que, sitôt que vous sortez des grandes lignes, et que vous avez des interconnexions avec des TER, etc., ils arrivent pas, ils sont en retard, on vous met des autobus qui sont là ou qui sont pas là.
Mais pourquoi?
Donc,
c'est premièrement, pas faute de la
premièrement, ça ne m'étonne pas. Bon. Premièrement, ça ne m'étonne pas. Deuxièmement, il y a un service public que je connais bien, fort bien, pour l'avoir étudié, constamment depuis 20 ans, si je peux dire, c'est celui de la santé et celui de l'hôpital public. C'est un désastre, je veux dire. On a organisé une attrition des moyens du service public de santé systématique. L'ONDAM, systématiquement, accorde au service public de santé en dessous de l'inflation depuis 15 ans.
C'est l'objectif de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM.
Responsabilité
politique.
Ah oui, absolument. Je pense qu'il y a une volonté tout à fait claire, chaque fois que possible, de réduire le service public à la portion congrue et de transférer vers le privé.
Mais c'est pas tant.
Philippe Manière. Quoi que vous regardiez, quelques domaines que vous regardiez.
Prenez le ferroviaire. Je vois pas qu'il a été privatisé ni transféré.
Il n'est pas mis en concurrence.
Mais vous avez vu, il y a trois trains qui arrivent
Paris-Lyon
d'Europe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mise en concurrence.
Mais qui a entre Qui a entretenu les lignes périphériques en SNCF? Personne. Qui les a fermées?
Ça, je suis d'accord avec vous. C'est des décisions qui ont été prises au fil du temps.
C'est ce que je vous dis. C'est
l'attrition. Philippe Manière.
C'est l'attrition du service public.
Parce que l'argent n'a pas été diminué. Il a été mal fléché. On a absolument voulu développer le TGV en en distribuant partout. Ça coûte horriblement cher. Le bilan carbone, d'ailleurs, est discutable quand on intègre les travaux, etc. En tout cas, pendant un certain temps. Le TGV, c'est une merveille française, mais l'argent a été distrait des autres lignes. Enfin, tout ça est bien documenté.
Ça ne gagne pas d'argent.
Ça n'est plus polémique. C'est que pendant des années, sous la pression de l'opinion et de l'exécutif, les choix qui ont été faits ont été ceux de privilégier les trains à très grande vitesse.
Ça a été un choix politique.
Ça a été un choix politique.
On a voulu des LGV.
Dans n'importe quel autre pays à peu près développé, un exemple au hasard qu'on cite pratiquement chaque fois qu'on se voit à la Suisse, vous avez une appli, pour le coup c'est pas privatisé, c'est complètement public, c'est tout ce que vous voulez, une appli qui marche parfaitement bien, on doit en avoir 12 et vous avez des trains qui sont très nombreux et qui sont à l'heure. Simplement ça coûte très 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 cher. C'est-à-dire que les trajets coûtent cher et les subventions de la Confédération ou des cantons, je crois que c'est au niveau de la Confédération, au système de chemin de fer, c'est très élevé, mais c'est un choix public. On dit on veut que les gens prennent beaucoup le train, c'est un choix public, c'est très entretenu et pas seulement au niveau des grandes lignes. Vous avez de quoi aller partout, tout le temps. C'est un choix.
C'est plus facile
le
de mailler la Suisse que la
France. Le choix qui a été fait n'est pas celui-ci, mais il n'y a pas eu d'attrition des moyens. C'est comme sur l'hôpital. Sur l'hôpital, quelqu'un qui travaille à l'hôpital peut vous dire qu'il y a un problème de nombre de gens au lit du malade, il y a un problème d'organisation, il y a un problème de disponibilité des équipes, il y a un problème, c'est le bazar. Je suis d'accord avec vous, ça s'est dégradé, c'est une catastrophe Mais c'est pas faute de moyens.
Mais bien sûr que c'est
non, c'est pas faute de moyens. Dans beaucoup de services, vous avez maintenant plus d'équivalents temps plein qu'il y a 5, 7 ou 10 ans.
Je comprends pas comment vous osez dire des choses.
Mais parce que ça se constate.
Mais le nombre de lits qu'on a fermés, le nombre de postes d'infirmiers.
Il ne faut pas confondre les lits fermés, c'est parce qu'on a basculé beaucoup en ambulatoire. Donc la fermeture de nombre de lits peut être parfois fâcheuse, parfois un succès.
Pourquoi on a basculé en ambulatoire?
Parce que c'était quoi être moyen de garder les gens quand c'était pas nécessaire.
Non, parce que ça coûte beaucoup moins cher.
Bah oui,
il y a toute une série de cas dans lequel
c'est moins cher.
Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas eu une politique budgétaire vis-à-vis de la dépense publique en ce qui concerne l'hôpital, visant à réduire de manière drastique,
à réduire ce qui était inutilement dispendieux. Bon, enfin, en revanche, il y a eu beaucoup de moyens supplémentaires qui ont été donnés ailleurs.
J'espère qu'il y a des fact-checkers. Je les appelle
Je suis très gourmand de ce débat sur
regardez ce que les urgentistes tous les ans.
L'efficacité de la dépense publique, les raisons qui font que beaucoup considèrent qu'ils n'en ont pas pour leur argent.
Là où on est d'accord, c'est que ça se dégrade.
Bon,
la
on a fini, hein, Philippe.
À juste titre, parce que le service se dégrade.
Je n'ai pas eu le temps de vous demander si la plus grande honte de la France était d'avoir l'homme le plus riche du monde.
Oh bon.
Voilà. Eh bien, Benjamin Coria aujourd'hui, Philippe Manière, Ludovic Subran, rendez-vous demain 9h.